Parole de paix sur RCN. Dans un contexte mondial de guerre multiple et de crise climatique majeure, et alors que nous nous enfonçons dans une société de plus en plus autoritaire de surveillance, de contrôle et de violence, Parole de paix vous propose un magazine humaniste d'information, d'analyse et de discussion. Nous sommes plusieurs organisations de Nancy autour des valeurs qui vont des droits de l'homme, de pacifiste et voilà toutes ces valeurs-là. Notre collectif échange autour des conditions nécessaires à la paix, à faire humanité, mais aussi sur des conflits, des guerres et leur préparation. Des sujets que nous discutons et que nous voulons partager avec les auditeurs et auditrices parce que tout ce qui touche à l'humain nous concerne toutes et tous. Dans cette émission, nous ferons une présentation du Printemps de la Palestine pour l'édition 2024. On fera le tour de tout ce que l'association France-Palestine et les associations qui travaillent avec sur ce festival, un festival culturel multiforme. On verra ça avec Alain. Bonjour Alain.
Bonjour.
Autour des micros, nous avons également Catherine. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Catherine, le micro, il est là.
Bonjour à tous.
Catherine de la Ligue des Droits de l'Homme. Et nous avons également Christophe qui est avec nous pour cette émission.
Du SAF, bonjour.
Du SAF, syndicat
des avocats de France.
Voilà. Et puis moi-même, Stéphane Tabourin, du mouvement de l'objection de conscience. Comme à l'accoutumée, on commence par quelques brèves, que nous ferons brèves. J'en ai compté quatre, et on commence par Christophe, qui nous parle un petit peu de Julian Assange. Il y a eu à Nancy, je crois, dimanche 3 mars dernier, à Nancy, une manifestation pour ce journaliste, ce lanceur d'alerte qui est Julian Assange. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles,
Christophe? Ouais, alors je vais essayer de faire bref, hein, puisqu'il s'agit d'une brève. Oui, il y avait eu un rassemblement, puisqu'on attendait une décision de la Haute Cour de Londres qui vient de tomber. Alors c'est une décision qui accorde un sursis à Julian Assange, un sursis de plus. Alors à la
qu'est-ce
fin...
Qu'est-ce qui est risqué? Bon, est-ce que tu peux...
Alors il risquait une extradition vers les États-Unis et aux États-Unis une peine de 175 ans de prison, donc largement de quoi y finir.
C'est un criminel? Pourquoi autant
Son crime, c'est d'avoir informé notamment sur les crimes de guerre américains et aussi sur l'espionnage des dirigeants, notamment des dirigeants occidentaux, et notamment en son temps François Hollande, mais François Hollande n'était pas rancunier puisqu'il a refusé quand même l'asile politique à Julian Assange, alors même que c'est lui qui avait informé sur l'espionnage.
Par les services américains.
Donc Julian Assange, en réalité, il est persécuté depuis 2010 environ. Il est resté cloîtré dans l'ambassade de l'Équateur pendant des années.
Depuis, à Londres.
Ouais, l'ambassade de l'Équateur à Londres depuis juin 2012, parce qu'il risquait d'être interpellé par la police britannique. Et au départ, il risquait d'être interpellé pour être livré aux autorités suédoises dans un premier temps. Parce que ce qu'on lui reprochait, c'était, dit-on, un délit sexuel qui aurait été commis en Suède. Et il n'aurait pas respecté un contrôle judiciaire qui a fait suite à ce délit sexuel en Suède, un contrôle judiciaire en Grande-Bretagne.
Un délit monté de toutes pièces.
Et il s'avère effectivement que ce délit est complètement bidon, et d'ailleurs on n'en parle plus aujourd'hui. Donc il est en prison, en tout cas il a été interpellé et emprisonné pour avoir manqué à ce contrôle judiciaire sur ce délit sexuel, ou en tout cas prétendu délit sexuel, et aujourd'hui il n'est plus du tout question de ça, on n'entend absolument plus parler. Il est question d'une extradition non plus vers la Suède, mais directement vers les États-Unis. Donc ce qui montre qu'en réalité c'est pas de la justice, hein, c'est une espèce de simulacre de justice en perruque, et quand je vous dis que c'est un sursis, en réalité on se demande si c'est un sursis ou si c'est une prolongation d'une espèce de supplice qui est imposé à Julian Assange, où on a une succession d'espoirs, de déceptions, etc. Mais avec une réalité derrière, c'est qu'il est emprisonné sans discontinuer depuis 5 ans dans une prison de haute sécurité à Belmarsh à Londres. Et tout ça pour un motif, et on se demande en réalité quel est le vrai motif. Est-ce que c'est le délit sexuel qui n'existe plus, qui s'est évaporé? Est-ce que c'est juste pour avoir informé sur les crimes de guerre commis par les Américains? Et il semble bien qu'en réalité, c'est bien ça. Ouais, hein, le problème, c'est qu'il est informé sur les crimes de guerre américains et que le but, c'est de dissuader d'autres journalistes de faire la même chose. Il faut savoir également qu'il avait informé sur ces crimes de guerre, mais pas directement. En fait, il avait donné des informations à des médias du monde entier qui avaient diffusé ces informations, mais eux ne sont pas poursuivis. En fait, les poursuites, elles sont vraiment sur un seul homme. Et elles sont concentrées sur Julian Assange. Le but, c'est de faire un exemple vivant, quoi, d'emmurer quelqu'un vivant pour que chacun puisse bien se figurer ce qu'il
puis
attend.
De faire, et puis de faire taire ceux qui ouais. souhaiteraient faire de même.
Et puis, si on souhaite faire de même, on a l'exemple vivant là, de ce qui vous risque d'arriver, d'être emmuré vivant, d'être envoyé pour moisir en prison pendant 175 ans. Ou alors d'être enfermé dans une prison d'un allié des États-Unis pendant 5 ans sans jugement, en vous baladant de sursis en sursis. Donc c'est pour dissuader. Et quand je vous ai parlé également du fait que la France n'avait pas agi, en tout cas elle a agi négativement dans cette affaire, puisque François Hollande, qui était alors président de la République, a refusé l'asile qui était demandé. Julian Assange avait fait une lettre au président de la République française qui lui a refusé l'asile politique, ce qui montre bien, alors même qu'il dénonçait des écoutes de la présidence de la République française, ce qui montre bien qu'il y a un lien de subordination en réalité entre les autorités françaises et les autorités américaines, ce qui paraît évident dans cette affaire. Et ce lien de subordination, on le retrouve également en matière d'information, parce que c'est ça hein, la qualité de Julian Assange, c'est d'informer, et quand on enferme ceux qui informent, on déforme en réalité l'information, et on a une désinformation. Alors ça, c'est ce qui était dénoncé par Julian Assange, mais c'est ce qu'on retrouve. Lui, ce qu'il disait, c'est que tous les conflits depuis les années 50 ont été faits contre l'avis des populations, parce que les populations avaient été préparées par de la propagande et par de la désinformation, et que s'il n'y avait pas eu cette désinformation, il n'y aurait pas pu avoir ces conflits, parce que les populations s'y seraient opposées. Et ça, on le voit toujours à l'œuvre, et il me semble encore plus à l'œuvre aujourd'hui.
En ce moment,
et avec le conflit avec Gaza, ça semble tout à fait évident. Alors, je fais un lien un peu prématuré, me semble-t-il, avec la suite des débats, mais on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure.
Donc, c'est une chasse aux lanceurs d'alerte, c'est une chasse à ceux qui veulent la paix, c'est une chasse au profit des profiteurs de guerre, des gens qui ont besoin que la guerre continue. Et donc, toute personne qui se met en travers de leur route pour dénoncer ce qui se passe risque potentiellement...
C'est empêcher l'information, mais l'information, c'est un bien irremplaçable en démocratie. C'est une condition de la démocratie, parce qu'on ne peut pas choisir entre différentes opinions si on n'est pas informé des différentes opinions, si on ne sait pas ce qu'il y a derrière comme réalité. Mmh. Et puis, c'est une garantie également des autres libertés, parce que c'est parce qu'on peut s'exprimer que on ne peut pas étrangler les autres libertés derrière. Et empêcher l'information, c'est empêcher la démocratie, en réalité. Mmh. Donc, que des démocraties aient aujourd'hui des dissidents, en réalité, comme on parlait des dissidents soviétiques dans les années 60 ou 70, aujourd'hui, Assange, c'est un dissident occidental. Et ça, il faut que les gens se mobilisent contre ça, en fait. Oui. En tout cas, s'ils tiennent à leur démocratie.
Et donc, est-ce que pour préciser, à l'heure où nous enregistrons cette émission Parole de paix, on ne sait pas encore si l'Angleterre va livrer
ce qu'a demandé...
Trois semaines.
Alors,
trois semaines.
Ils ont trois semaines pour donner des garanties. Ils ont demandé des garanties supplémentaires aux États-Unis, comme s'ils n'avaient pas pu le faire avant. Vous voyez, même cinq ans qu'il est enfermé dans une prison de haute sécurité. Il y a des échanges réguliers entre les autorités britanniques et les autorités américaines. Ils connaissent très bien, ils savent très bien comment ça se passe. Donc, franchement, pour moi, ça ressemble vraiment à une mascarade sous forme de justice en perruque. Hein,
avec des êtres humains qui risquent gros. Sur eux.
Ouais, et qu'on maintient dans des conditions de détention et même dans une incertitude en fait, hein, puisqu'on fait succéder des espoirs et du désespoir. Pour moi, ça participe en réalité du supplice de Julian Assange.
Oui, tout à fait. Eh bien, on va continuer avec toujours dans le monde, et là on parlait des États-Unis qui s'en prenaient à Julian Assange et à la liberté d'informer, la liberté d'expression. Et la Ligue des droits de l'homme va nous parler d'une atteinte à la liberté en France.
Alors, si je peux juste ajouter un petit mot hein, sur Julian Assange, quand je vous dis qu'il faut se lever pour Julian Assange, lors de la manifestation du 3 mars dernier, on avait déployé une banderole qu'on voulait déployer sur l'hôtel de ville à Nancy. Et les autorités municipales nancyennes ont refusé de qu'on déploie cette banderole sur l'hôtel de ville. Ça veut dire qu'elles ont refusé leur soutien à Julian Assange.
Dans la droite ligne de François Hollande, tu veux dire, alors?
Ça, on le comprend pas, en fait.
On aimerait bien. On ne pouvait pas tout faire, François Hollande, parce que quand
on aimerait bien qu'on nous explique.
Il faisait la fête avec Netanyahou chez lui, donc il ne pouvait pas tout faire en même temps.
On aimerait bien qu'on nous explique.
Il faut continuer à
se mobiliser. Voilà. Parce que la mobilisation est vraiment très importante. C'est des décisions politiques, en fait. C'est pas des décisions juridiques ou judiciaires. C'est vraiment important qu'il y ait de mobilisation.
Et ben, Catherine de la Ligue des droits de l'homme va nous parler d'une autre atteinte à la liberté, qu'on va toujours plus loin dans la surveillance, dans le fichage. Et donc, une information récente énerve la Ligue des droits de l'homme qui va lancer son cri. Vas-y Catherine, donc de quoi il s'agit?
C'est une tribune récente du 26 mars qui a été signée par Patrick Baudouin, donc le président de la LDH, et par Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT. Alors de quoi s'agit-il? L'INSEE, donc Institut de la Statistique, vient de demander de modifier le texte réglementaire concernant le recensement. Donc elle a demandé ça au Conseil d'État afin de pouvoir demander le pays de naissance des parents lorsque les gens seront recensés.
Donc tu veux dire qu'en France, maintenant, avant on ne demandait pas aux gens, et maintenant on va leur demander d'où ils viennent, quels que soient les habitants sur la population française.
Jusqu'à maintenant, ils demandaient le sexe, l'âge, le lieu de naissance, mais de la personne concernée.
Ah, et pas les parents.
En plus, c'est les parents, et en plus, c'est l'origine ethnique des parents.
Ouais, ça sent un peu la recherche de Français de souche, et pour aller dénicher ceux qui ne sont pas vraiment...
Parce que d'autant plus que le but du recensement, c'est de recueillir des informations de base utiles pour des prises de décision, qu'elles soient publiques ou privées. Par exemple, faut-il reconstruire des écoles, des gymnases, en fonction de l'âge de la population, des maisons de retraite et tout ça. Donc ça n'a rien à voir. Donc ça sent pas très bon. Il faut savoir qu'en 2010, cette question, elle avait déjà été posée, et elle avait... le Conseil d'État n'avait pas accepté. Mais là, ça revient, et bon... Il faut être très vigilant là-dessus, parce que c'est vraiment du fichage...
Ethnique, c'est rechercher l'origine des gens, c'est assez scandaleux.
Peut-être jusqu'à la 7e génération. Des mauvais souvenirs.
La LDH nous alerte sur cette...
Alors, vous pourrez lire la tribune complète sur Libération.
je peux peut-être ajouter un petit truc là-dessus. Alors là, comme l'a dit Catherine, ça n'a aucun intérêt là, en l'état actuel. S'il s'agit de construire des écoles, etc., on ne voit pas bien à quoi peuvent servir les origines des parents. Par contre, c'est un instrument qui serait très utile si, pas extraordinaire, on avait un gouvernement d'extrême droite qui arrivait au pouvoir.
Bien sûr.
Notamment s'ils avaient des projets par extraordinaire de déchéance de nationalité, vous voyez, ce genre de choses, ou alors voire de remigration, ça c'est dans le programme de Zemmour par exemple. Donc là on a un pouvoir qui est en train de préparer le terrain, de donner des armes, pas seulement en cette matière, également en matière policière, etc., mais qui vraiment donne des armes à un pouvoir potentiel d'extrême droite.
Et le plus grave, c'est que là on va avoir des élections européenne, et on nous explique que pour faire barrage au Rassemblement National, il faut soutenir Macron, ou il faut soutenir des partis qui, justement, sont au pouvoir actuellement et préparent ce terrain. Donc, on voit la duplicité, on voit le mensonge et on voit la manipulation. Donc, il faut que les auditeurs soient attentifs à ça.
Alors, c'est les mêmes qui avaient voté la loi Darmanin également. Ouais. Donc, on voit bien qu'il y a des convergences entre...
Parce que là, l'INSEE, c'est vraiment l'État. Il y a des instituts de sondage qui font des sondages sur les origines ethniques. C'est en dehors. Mais là, l'État demande à le faire.
La tribune dans Libération, c'était étudié vers fin mars.
C'est le 26 mars,
on doit pouvoir retrouver ça sur Internet. Je souscris aussi. Alain dit, il faut vraiment faire attention. Il faut être vigilant. Il faut regarder comment on nous balade dans le petit jeu entre les macronistes et l'extrême droite en France.
Tout à fait.
Ouais, donc bien regarder les choses et je dirais un petit message civique. S'abstenir, c'est leur laisser toute la place à ces gens-là. Moi, dernière petite brève, là, je vais essayer d'être rapide. Tous les ans, au mois d'avril, c'est la fin de la trêve hivernale pour l'expulsion des logements. Et ça, ça passe assez sous les radars. Le DAL, l'association Droit au Logement 54, avec le soutien de la CGL, je crois que c'est Confédération Générale du Logement. Avec l'association Citoyen, et puis l'association Un Toit pour les Migrants, ATD Carmonde, le réseau Éducation Sans Frontières et la CGT 54 font un rassemblement le samedi 30 mars de 14h à 15h, place Charles III, pour exiger la fin des expulsions sans relogement, parce que c'est quand même... c'est quand on est frappé de cette expulsion, c'est dramatique pour une famille, c'est l'humiliation bien sûr pour soi-même et sa famille, son voisinage, c'est une source de dépenses supplémentaires pour accéder à un nouveau logement, c'est une rupture dans la scolarité des enfants, souvent contraints de changer d'école, c'est vraiment quelque chose de, c'est une violence inouïe de venir un matin avec des gendarmes ou avec de la police pour expulser une famille, quelle que soit sa situation économique. Et donc il faut s'alerter aussi sur la reprise des coupures d'électricité, coupures de gaz et des expulsions. Donc avec le DAL, l'association Droit au Logement, c'est important. Voilà pour les brèves.
Le 30, le 30, ce sera à 14h, c'est ça?
Oui, 14h, ouais. Place Maginot.
Juste avant le cercle du silence.
Oui, voilà. Le cercle du silence.
C'est l'occasion de rappeler.
Peut-être rappeler que le cercle du silence, c'est le dernier samedi de chaque mois à 15h, place Stanislas. Et le cercle du silence, c'est aussi pour s'offusquer de ce qui se passe pour les migrants. Et encore une fois, sous les coups de butoir de l'extrême droite qui nous fait ces trucs de fantasmes. Et au bout du compte, c'est des gens, des femmes, des familles, des enfants qui meurent. On avait une dernière brève, Catherine. Tu as fait de me faire remarquer.
Je voulais rappeler qu'il y a eu un communiqué commun avec de très nombreuses associations début mars pour demander à nouveau la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans le recours à la torture pendant la guerre d'Algérie.
Ah.
Voilà. Alors, Emmanuel Macron, il a fait différentes annonces, mais... Il n'est pas allé jusqu'au bout. Donc en 2018, il a reconnu l'assassinat de Maurice Audin par des militaires français. En 2018. Ouais. En 2021, l'assassinat d'un avocat algérien lors de sa détention. Et puis en octobre 2022, il a reconnu que c'était un système fondé sur la pratique de la torture. Voilà. Et donc, c'est des déclarations que les associations saluent, mais elles demandent plus, elles demandent la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans le recours à la torture.
Et bien, justement, alors, à nos paroles de paix, on avait annoncé qu'à Toul, il y avait un collectif, on l'a annoncé dans une émission précédente, qu'un collectif s'élevait. Alors, s'élevait contre quoi?
S'élevait contre la mise en place d'une statue dans l'espace public, alors statue de 2,50 m de haut, de Marcel Bijard, en tenue de parachutiste, avec ses décorations.
Est-ce qu'il y a la GGN aussi avec?
À côté de lui.
Dans la sculpture.
Et du coup, ce collectif dénonce les méthodes que Bijard a enseignées. Il a enseigné la torture en Algérie. Et il a toujours dit ne pas l'avoir pratiqué lui-même, mais bon...
Il l'enseignait à tous les dictateurs du monde à l'époque.
Alors non, il l'enseignait dans une école en Algérie, et après, ça a essaimé dans le monde entier.
Oui, l'armée française a été promoteur en la matière.
Ouais. Voilà, et ça
auprès
s'appelait...
Auprès de nombreuses armées du monde.
Comment ça s'appelle? Les contre-révolutionnaires.
Contre-insurrections. Les méthodes contre-insurrectionnelles qui ont été exportées dans le monde entier.
Ouais.
qui ont fait florès au Vietnam, partout ailleurs.
En Amérique du Sud.
En Amérique du Sud également.
Voilà, donc à nouveau, il y a des annonces, mais ça ne va jamais jusqu'au bout, il n'y a pas le soutien jusqu'au bout. Alors, il y a toujours une pétition en ligne. Donc, je vous conseille d'aller la signer.
C'est sur le site change.org. Et si on écrit statut Bijard, on tombe dessus.
Sinon, il y a aussi sur Framaform. Ça s'appelle « Pas de statue de Marcel Bijard dans l'espace public toulois ».
Ouais. Alors, juste un mot pour dire que la statue de Bijard, c'est pas que Bijard, hein, ça symbolise tout un système.
Oui, c'est le système de
la torture qui a été institutionnalisé, qui a fait l'objet de livres même en fait, et d'instructions dans des écoles spécialisées, de doctrine, de la contre-insurrection également. Donc c'est vraiment le symbole de quelque chose. Et ériger une statue comme ça dans l'espace public, en plus pour la défense en fait, ce que défendait Bijard, c'était pas la patrie française, hein. C'était la colonisation en fait, hein. C'était en Algérie que ça se passait, hein. C'était pas pour défendre la France dans l'Hexagone, si vous préférez. C'était vraiment pour défendre le colonialisme. Et donc ériger ça dans l'espace public aujourd'hui en 2024, ça paraît surtout surréaliste, et c'est encore plus surréaliste quand on sait que la mairie, ce serait une mairie de gauche, quoi. C'est de socialiste, on va dire.
Ex-socialiste,
mais il y a quand même des questions à se poser sur l'absence de culture historique ou de mémoire, en fait.
Oui, c'est assez dangereux parce que, sous le prétexte que Bijard était un citoyen toulois dans le passé, pour célébrer les citoyens célèbres, on élèverait les statues. Mais citoyens célèbres, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et là, en l'occurrence, c'est pas seulement pour le folklore, quoi. C'est extrêmement grave. Ériger une statue à un type qui a torturé comme ça pendant la guerre d'Algérie, c'est fou, quoi.
Et puis, c'est pas une statue d'un Toulois qui va chercher sa baguette au coin de la rue. C'est la statue de Bijard en uniforme de para, donc en action.
Quasiment. Oui, en plus. Oui.
Et de plus, l'artiste qui a fabriqué la statue est un zémouriste.
L'extrême droite, oui, l'extrême droite. Donc, sur Change.
Château intégriste qui publie dans des revues aussi intégristes. Voilà.
Donc, il est important de se mobiliser. Pas de statut de Marcel Bijard dans l'espace public sur change.org. Allez.
Ou Framaform.
On a pris beaucoup de retard, les amis. On doit présenter le printemps de la Palestine édition 2024. On fait une petite pause musicale et on y va juste après.
Très bien, bafoué par des ignares qui aboient trop fort, mais toute la terre est témoin. Enclavé comme du bétail par celui qui t'a volé ta terre. Seul au monde à la merci de l'oppresseur qui veut te voir disparaître. Et les puissants soutiennent celui qui veut ta part. Calomniés même sous les bombes, font tout pour déshumaniser. L'oppression se compte en générations, mais diront que c'est toi le monstre à l'arrivée. Prendront soin de jamais mentionner l'apartheid. Prendront soin que jamais la paix se négocie. Les médias, eux, oseront appeler ça la guerre. Mais une armée contre un peuple, c'est un génocide. Et les puissants soutiennent celui qui veut ta part. Des pluies de missiles comme s'ils voulaient créer de la cave. Enfermé dans la cage, périra sous les gravats. Et les médias diront que c'est pas grave. Enfermé dans la cage, périra sous les gravats. Les médias diront que c'est pas grave. Sous les yeux du monde meurt Gaza. Terre sacrée est abreuvée de sang. L'extrême droite et son fanatisme sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif. Terre sacrée est abreuvée de sang. Gouvernement d'extrême droite et son fanatisme. Sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif.
Midi, parole de paix sur RCN.
Dans cette émission, nous allons présenter le printemps de la Palestine. La FPS a une actualité très 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 chargée avec avec les morts, avec ce qui se passe de le génocide en cours à Gaza et la violence et qui peine tous les vrais démocrates et tous les gens qui sont attachés à la vie humaine. Et donc à Parole de Paix, régulièrement on parle des manifestations qui sont organisées pour avoir un cessez-le-feu à Gaza. Mais la FPS a aussi d'autres activités, notamment tous les ans, elle organise une présentation, elle organise un festival qui est plutôt culturel pour faire vivre la culture palestinienne, pour faire connaître la culture palestinienne. Et donc là aujourd'hui, Alain, tu vas nous présenter tout ce qu'il y a au programme, tout ce que vous avez travaillé pour nous faire connaître la culture palestinienne à Nancy, et ça se passe début avril.
Voilà, tout à fait, du 6 au 21 avril. Évidemment, on organise le printemps de la Palestine chaque année, à peu près mois d'avril, mai. Hein.
Au printemps
de la Palestine. L'objectif a été, depuis le début, c'est la 13e édition, si je ne me trompe pas, ou 14e, l'objectif a toujours été de montrer la richesse du peuple palestinien, la richesse de sa culture, au plan musical, au plan cinématographique, dans tous les domaines, au plan de la littérature, au plan de la poésie. Alors cette année, quand on le prépare très longtemps à l'avance, donc on a décidé d'organiser le printemps de la Palestine, le drame, le génocide en cours n'avait pas commencé, hein, le 7 octobre n'était pas intervenu. Donc cette année, le printemps de la Palestine va être dédié entièrement à Gaza et à la situation du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie. Mais en même temps, on ne lâchera pas sur l'idée, parce que les dictateurs, en général, les colonialistes, s'en prennent à la culture pour s'en prendre au peuple. Hein, pour leur jeu.
Ils essaient d'effacer toute culture de ceux qui dominent, quoi, de tout ce qu'ils exploitent.
Totalement. Et donc là, en ce moment, à Gaza, qu'est-ce qui se passe? Les écoles, les lieux culturels. C'est si vrai d'ailleurs qu'on accueille à Nancy des Gazaouis qui travaillaient pour l'Institut de France à Gaza. Institut de France, donc une propriété française qui a été totalement détruite par les Israéliens, mais on ne dit rien, hein, ils ont le droit de tout détruire. Donc voilà, il s'agit d'anéantir la culture palestinienne pour anéantir l'idée même d'un pays et d'un peuple et de l'autodétermination du peuple palestinien.
Les Américains ont fait ça avec le peuple amérindien qui existe. Donc on a presque plus d'histoire des peuples présents quand un peuple arrive, le colonise et essaye de les détruire. Et il commence aussi par la culture.
Alors les Israéliens n'ont pas tiré les leçons, parce que la culture amérindienne, elle a pas disparu, elle renaît justement, et on n'arrive jamais à éradiquer complètement une culture comme ça. Ils devraient le savoir, hein, l'histoire mondiale récente le montre, et donc on va célébrer la culture palestinienne pendant 15 jours.
Et pas qu'à Nancy, j'ai vu ça, donc c'est...
Non,
c'est,
voilà.
C'est sur plusieurs villes.
Alors ça se déroule à Nancy, à Vendeuvre, à Tomblaine, à Villers. Alors à Villers, parce que le domaine de l'année se trouve à Villers, hein. C'est pas la ville qui nous accueille, puisque la ville fait partie de ceux qui veulent faire taire le combat pour la Palestine, hein. Mais à Saint-Dié, également,
dans les
voilà,
aussi,
dans les Vosges, hein, Saint-Dié, Épinal, Gérardmer et à Toul. Donc voilà, pour faire le contrepoids à la volonté de construire d'élever une statue pour un célèbre colonialiste tortionnaire. Juste un mot pour dire que c'est le printemps de la Palestine est soutenu par le département du 54, par la ville de Nancy, la ville de Vendeuve, la ville de Tomblaine, et que c'est organisé par toute une série d'associations avec France-Palestine Solidarité, il y a la TMF, il y a le FSE, France-Syrie Entraide, pardon, le Mouvement de la Paix,
le MAN
ouais, aussi, ouais. L'association Réponse, le Caméo, hein, puisqu'il y a plusieurs films qui vont passer au Caméo avec des débats, la LDH, Amnesty, le CCFD, mais également l'Union juive française pour la paix, l'UJFP, l'UAVJ, une autre voie juive, le CLID, Politis également,
le journal national, hein, ouais,
voilà,
un soutien
qui national. Soutiennent donc cette manifestation. Voilà.
Alors là tu là, t'as commencé à nous
allécher. À la bouche, hein.
voilà.
Alors
qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver. Alors il y a plusieurs temps forts, je vais pas tout vous détailler, hein, faut renvoyer vers le programme, mais on commence le 6, place Charles III, par un après-midi chant, danse, musique, mais également dessin pour les enfants, il y aura des graphes, il y aura également du thé, on pourra boire du thé, manger des pâtisseries orientales, manger
6, c'est un samedi, hein,
de la soupe aux lentilles, célèbre soupe aux lentilles, qui est un plat palestinien traditionnel et qui s'est répandu dans tout le Moyen-Orient. Hein. Oui, c'est un samedi, hein, oui. Samedi après-midi. Et au milieu de cette partie culturelle, à 16h, il y aura un rassemblement pour Gaza.
D'accord.
Voilà. Alors, pour Gaza, un rassemblement pour réclamer le cessez-le-feu et pour réclamer que la France s'oppose au génocide en ayant des actes plutôt que des paroles, parce que les belles paroles c'est bien gentil, mais en attendant on continue à mourir là-bas sur place. Par exemple, il y a un vrai scandale autour de l'aide humanitaire, puisque les médias nous font un grand cinéma autour de un pont aérien et un port qui aurait été construit. Ben oui, mais pourquoi faire tout ça? Il suffit de dire aux Israéliens, n'empêchez pas l'aide humanitaire de rentrer à Gaza. Point final. Et ça, c'est le droit international. C'est-à-dire que les États-Unis, la France, les pays occidentaux ne font pas respecter le droit international et les droits humains les plus fondamentaux. Donc voilà, on aura un temps pour Gaza où on invite tous les gens à venir, alors à la fois faire la fête, rencontrer la culture palestinienne le samedi 6, et puis ce moment fort pour Gaza.
Donc le samedi 6 avril à 14h, c'est place Charles III,
on faisait place Maginot habituellement, mais il y a des travaux, il y a des baraques de chantier, etc.
Donc on invite tous les auditeurs et les auditrices à venir à passer pour ce moment culturel, ce moment de fête, de démarrage du printemps de la Palestine. C'est entièrement, moi c'est gratuit, on peut après soutenir si on veut, mais c'est on peut venir en famille et si on veut manifester à partir de 16h, il y aura un rassemblement ou je sais pas s'il y aura une marche, mais pour penser aussi à Gaza. Donc,
non, il n'y aura pas de marche. Hein. C'est une petite, entre guillemets, parenthèse dans l'après-midi. Danse, chant, chorale, DJ, musique traditionnelle européenne et orientale. avec de la calligraphie aussi, etc. Quoi, voilà.
Donc, samedi 6, place Charles III, 14h. À partir de 14h, venez nombreuses, nombreux pour le démarrage ouvrage du Printemps de la Palestine, édition 2024.
Je n'en ai pas parlé tout à l'heure quand j'ai fait référence à l'objectif du rassemblement à 16h, hein, qui est de s'adresser aussi au gouvernement français pour qu'il contribue à mettre fin au génocide. On a appris il y a quelques jours dans la presse que une chose que la France peut faire, c'est arrêter de livrer des armes à Israël. Par exemple,
des munitions surtout.
Et voilà, parce qu'on apprend que la France a autorisé, sous le manteau, fin octobre en 2023, la livraison à Israël d'au moins 100 000 pièces de cartouches pour les fusils mitrailleurs qui sont utilisés par l'armée. Et je vous passe sur les détails, mais on a retrouvé sur des missiles qui ont effondré des maisons avec des familles en dessous, les marques des missiles qui étaient fabriqués en France. Hein, voilà.
Oui, la France. Maintenant, la France est à nouveau deuxième vendeur d'armes au monde. Ouais. Et les armes, il se trouve que ça sert à tuer des gens. Et c'est après, ce qui est aussi scandaleux, c'est que on a effectivement un gouvernement qui ment à sa population et à ses députés, parce que il jure grand Dieu que non, c'est seulement des petites pièces pour que Israël se défende, alors qu'en fait. Là, avec cette information qui nous vient de Disclose, Gaza, l'Israël, la France vend à Israël des armes.
Mais oui, complètement. Alors, il y a plein de moyens de faire pression sur Israël. Faut cesser les accords économiques entre l'Europe et Israël. Il faut cesser les armements, etc., etc. Il y a plein de moyens de dissuasion. C'est pas compliqué. Il faut pas aller très loin. On le fait pour l'Ukraine. Pourquoi on le fait pas? Il y a deux poids deux mesures. Pourquoi on le fait pas pour Israël?
Alors c'est aussi hypocrite envers la Russie. Hein.
Bien sûr.
C'est la même chose. Oui, on l'a déclaré, mais on ne le fait pas.
Je voudrais dire un mot au sujet des migrants et des réfugiés plutôt. Hein. En ce moment, il y a plein de familles qui essayent de sortir de l'enfer de Gaza. On est sollicité, nous, de toutes parts, par des gens qui ont des liens avec d'autres familles, des familles françaises, qui ont des liens avec des familles gazaouis. Faut savoir que le ministère de l'Intérieur refuse toute sortie de Gaza, aujourd'hui. Darmanin fait refuser toute sortie de Gaza. Alors qu'on sait qu'il y a eu 200 000 réfugiés ukrainiens qui ont été accueillis en France. Donc encore une fois, on a deux poids deux mesures, alors qu'il y a un génocide qui se déroule en ce moment sous nos yeux. C'était encore une autre parenthèse, mais donc le 6 avril, on pourra venir dire tout ça en participant.
Voilà. Si je peux te faire une petite remarque, tu disais tout à l'heure, pour l'aide humanitaire, il n'y avait pas besoin d'un port, mais Netanyahou a quand même dit que le port servirait à renvoyer en mer tous les Gazaouis.
Oui, en plus, hein, évidemment. Ouais. Évidemment. Alors après, c'est le démarrage.
Ouais, donc on revient sur le
alors après, on va avoir du 5 au 20 avril à Villers, au domaine de l'année, une exposition qui s'appelle Enfance palestinienne. J'invite tout le monde à venir voir ces dessins. Ce sont des dessins qui ont été faits à la fois par des enfants de Gaza et par des enfants qui vivent dans les camps de réfugiés au Liban. On a des relations avec une ONG libanaise qui travaille dans les camps, qui s'appelle Najdé, qui travaille beaucoup avec les enfants. Et on a donc tous ces dessins qui nous ont été envoyés, avec lesquels on a fait une exposition. Et on aura un vernissage le 9 avril à 18h, suivi d'un petit buffet de spécialités palestiniennes organisé par l'association Réponse. Voilà, qui est notre partenaire également. Alors, on va avoir du cinéma pendant le printemps de la Palestine. À Nancy, on parlera de Toul après, et peut-être des Vosges, mais à Nancy, on va avoir le 11 avril, au Caméo, Bye Bye Tibériade. La séance sera à 20h15. Vous en avez peut-être entendu parler de ce film. C'est la fille de la plus célèbre actrice palestinienne, Liam, je me rappelle plus son nom, mais sa fille, Lina Soualem, a fait un film sur l'histoire des femmes de sa famille qui vivaient au bord du lac du Tibériade avant qu'Israël ne soit créé et avant que toute la famille ne soit chassée. Donc c'est un très beau film qui a eu pas mal de succès dans la période récente. Au caméo, bah, toujours, on aura un second film le 18 avril qui s'appelle Bir M, un film de Camille Clavel. Et là, ça se passe dans le nord d'Israël, non loin de la frontière libanaise. Et c'est une histoire d'une jeune Palestinienne qui essaye de réinvestir le village de ses grands-parents. Voilà. Et puis alors, on aura le 13 avril une grosse soirée à Tomblaine, à l'espace Jean Jaurès, avec en première partie le film Yalla Gaza, qui est un film qui a été fait par Roland Nurier, qui montre comment était la société gazaoui avant qu'il y ait cette destruction totale qui est en train de se produire. Et comme on a beaucoup dans les médias déshumanisé les Palestiniens, et en particulier ceux de Gaza, qui seraient tous d'affreux terroristes, membres du Hamas, ce film montre la réalité de la vie à Gaza. Et il y aura un petit buffet à 19h, et après on aura un concert de musique palestinienne et orientale en deuxième partie.
Voilà. Donc ça, c'est le samedi soir, samedi 13 avril.
Alors voilà, le samedi film, 13 avril.
Samedi 13 avril, film à partir de 17h.
17h film, 19h un buffet et 20h30 le concert.
Et ça se passe à
Jean Jaurès, l'espace Jean Jaurès à Tomblaine.
Donc espace Jean Jaurès à Tomblaine, ouais. Le 13 avril, 17h, 19h film, 17h, ouais. Et puis après buffet et après concert, d'accord.
Alors là, je vous ai parlé...
Excuse-moi, Alain, il faut réserver, il faut...
Oui, ce serait mieux parce que...
Alors comment on fait
sur AFPS, leur sud, vous pouvez aller nous joindre ou alors en nous appelant, mais bon, on peut toujours venir sur place, hein, on peut participer à la soirée. Ce que je crains, moi, c'est qu'il y ait beaucoup 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 de monde et que il y a pas assez de nourriture, hein. le buffet peut-être ne sera pas extensible, mais donc voilà.
Je rappelle l'adresse mail pour écrire à l'AFPS. Voilà. L'AFPS, c'est AFPS Leur Sud, AFPSLORSUD, AFPSLeurSud@orange.fr.
Voilà.
Tout attaché, AFPS Leur Sud.
Alors, donc voilà, donc ça c'est une soirée importante. Alors, on aura une autre soirée importante le 17 avril. Puisque c'est la partie la plus, entre guillemets, politique, hein, pendant le printemps de la Palestine, c'est une conférence débat avec, qui, sur le thème la Palestine, d'une guerre coloniale à une guerre génocidaire, avec Ziad Majed, qui est un politologue, professeur d'université, chercheur franco-libanais, et qui est l'auteur, co-auteur de nombreux ouvrages qui maîtrise vraiment très très bien toutes les enjeux du Moyen-Orient. Donc voilà, ça c'est le 17 avril à l'espace Henri Barbusse à Tomblaine. Voilà. Et puis bon, bah, dans la culture, on aura des contes.
Des
contes palestiniens. Public. Moi, je vous recommande vraiment d'y aller. C'est un moment magique. Le 17 avril à 16h à la bibliothèque, à la médiathèque municipale Jules Verne à Vendeuvre. Voilà. L'après-midi à 16h, il y a une lecture de contes, donc avec un petit buffet. Et c'est une lecture de contes en musique. Avec un violoniste qui accompagne. Et c'est un moment magique. Hein, c'est vraiment très très beau. Alors bien sûr pour les enfants, mais comme on est tous restés de grands enfants, moi je sais que j'apprécie beaucoup ce moment.
Donc voilà. C'est entrée libre à la médiathèque Vendeuvre, t'as dit 16h, c'est ça?
16h, oui.
Mercredi 17 avril, voilà. Pour avoir des contes et compter de la musique.
Et puis on finira à Nancy le dimanche 21 avril à 12h par un repas palestinien. Parce que la gastronomie fait partie de la culture, les Français le savent bien, et donc et d'ailleurs à ce propos, si vous allez en Israël, vous allez vous rendre compte que les plats traditionnels palestiniens sont devenus des plats israéliens. C'est-à-dire qu'il y a une captation d'une partie de la culture palestinienne. Hein. On vous explique que les falafels, par exemple, c'est israélien. Donc, voilà.
C'est aussi libanais. Moi, c'est un petit peu aussi de toute région.
Tout le Moyen-Orient. Mais il y a d'autres plats, par exemple, très connus.
Mais ça, c'est une appropriation qui ne fait pas de mal. Hein.
Non, mais c'est... Quand on commence à nier la culture des autres, c'est là que ça devient problématique. Ouais. Alors, on aura ce repas. Donc, à la salle Jacques... Prévert à
Vendeuvre.
À Vendeuvre.
Donc voilà. Ça, c'est près du CHU de Brabois. Il faut monter dans Vendeuvre.
C'est pas dans le centre. Hein.
Non, mais il faut le savoir.
Voilà. Voilà, là, c'est payant. Il faut s'inscrire. C'est 20 euros. On peut s'inscrire sur AFPS, lorsud@orange.fr, où il y a un numéro de téléphone également, 06 88 58 31 82. Et là, en général, il y a repas et puis il y a musique également, quoi. Voilà.
Donc ça, c'est le dimanche 21 avril, voilà. Pour midi. Tu peux redonner le numéro de téléphone. Donc le
06. Pour l'inscription, 06 88 58 31 82.
C'est bon.
21 avril à 12h, voilà.
Dimanche.
Et puis donc le printemps de la Palestine, c'est pas seulement à Nancy. Donc comme on a parlé de Toul tout à l'heure, on va parler de choses plus plaisantes à Toul. Le printemps se déroule également à Toul avec une exposition les visages de la Palestine ottomane. Alors c'est une exposition très intéressante parce que on nous a vendu une fable comme quoi la construction d'Israël se faisait pour un peuple sans terre sur une terre sans peuple. Et cette exposition montre que il y avait des gens qui vivaient là depuis très longtemps, qui vivaient très bien
ensemble,
et ensemble d'ailleurs avec les juifs, avec des chrétiens donc voilà, c'est une exposition sur les visages de la Palestine ottomane de 1890 à 1900 à Toul, à l'espace au centre culturel André Malraux, qui se déroulera du 6 au 19 avril. À Toul également, il y aura lecture de contes, donc je reviens pas, ça sera la même chose à peu près. Et puis...
Et ça sera où les comptes
Alors là, c'est toujours au centre socio-culturel André Malraux.
D'accord.
Et là, ça sera le 10 avril,
d'accord,
de 14h à 16h30. Et puis à Toul également, une séance de cinéma avec un film qui s'appelle « Alam, le drapeau » de Firas Khoury. C'est un film récent. C'est un film à la fois drôle et touchant sur la question des jeunes Palestiniens vivant en Israël. Hein? Parce que les Palestiniens sont pas une société homogène, puisqu'il y en a en Cisjordanie, à Gaza, et 20% de la population israélienne est d'origine palestinienne. Donc voilà, avec suivi d'un débat. Hein, et puis dans les Vosges, dans plusieurs villes, je ne vais pas tout vous citer, mais par exemple à Épinal, une exposition d'affiches internationaux sur la Palestine. Il y aura également une exposition Éclat de vie à Gaza, qui montre là aussi comment on vivait normalement à Gaza. Et puis... vous aurez également dans les Vosges, à Gérardmer, une expo, alors toute une journée à Gérardmer autour d'une exposition photographique d'Anne Pack, qui est une photographe qu'on a fait venir il y a quelque temps déjà, on en avait déjà parlé, hein, autour du thème Palestine, l'eau confisquée. Parce qu'il y a, c'est un des enjeux également pour les Palestiniens. Ça, c'est le 7 avril, donc il y aura un échange autour de l'exposition d'Anne Pack, un repas oriental, le film « Alam, le drapeau » et un débat animé par Anne Pack. Voilà. À Saint-Dié également, alors là, une exposition sur la Palestine au cinéma. La culture, le cinéma palestinien est extrêmement riche et on a une exposition donc sur la culture sur la Palestine au cinéma. Voilà. Et projection du film Yalla Gaza qui aura lieu le 9 avril également à Saint-Dié. Oui. On aura également, je ne l'ai pas cité, mais à Épinal, une conférence de Françoise Guyot, qui est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui va nous parler de ses voyages en Palestine. Et puis le 16 avril, le film à l'ouest du Jourdain d'Amos Gitaï, hein, qui est cinéaste, c'est un documentaire franco-israélien, et Amos Gitaï retourne dans les territoires occupés pour la première fois depuis son film qu'il avait réalisé qui s'appelait Journal de campagne. Donc voilà. Voilà un peu le programme du printemps de la Palestine pendant 15 jours dans toutes ces villes, dans tous ces lieux.
Si on n'a pas eu le temps de prendre des notes, est-ce qu'on peut retrouver des documents ? Est-ce que vous avez fait ? Je vois que vous avez un joli document vert foncé avec un enfant et des.
Voilà. Alors il y a l'affiche que vous allez peut-être voir, qu'on va envoyer un peu partout dans les médias, sur les réseaux sociaux. Là-dessus, il y a un QR code. Qui vous permet d'accéder à tout le programme. Hein, voilà.
Donc l'affiche, on peut peut-être dire pour les auditeurs, elle est plutôt verte foncée,
ouais.
Avec un enfant qui est...
Un petit Palestinien, ouais. Qui a l'air à la fois...
Malin et gentil.
c'est une photo d'un de nos amis lors d'une visite qu'on a fait dans les camps, justement, palestiniens du Liban. Hein. Voilà, et l'affiche Printemps de la Palestine, 13e édition.
21 avril 2024.
Voilà, avec le nom, avec toutes les villes et les logos de toutes les associations qui participent.
En bas, il y a les logos,
à droite, en bas.
Voilà, QR code.
QR code, voilà. Hein, qui est sur aussi un petit dépliant qu'on va éditer. Vous pouvez retrouver tout ça aussi sur le Facebook. Et le compte Instagram de la FPS.
Est-ce que tu peux les redonner ? Je les vois, ils sont aussi sur l'affiche. Donc il y a l'adresse mail qu'on a citée déjà.
Voilà, afps.orange.fr. Mais vous pouvez Facebook.
L'Orsud 9.
Hein, voilà, com/afps.lorsud9. Enfin, si vous allez sur Facebook, vous faites AFPS Lorsud, vous trouvez. Et puis,
Instagram,
AFPS Sud 54.
D'accord.
Voilà. Ouais. Et là, vous avez le programme. Voilà.
Bon, en tout cas, c'est une belle initiative. À mon avis, c'est tout à fait salutaire hein, de faire connaître tout ce qui fait la richesse, tout ce qui fait l'humanité, tout ce qui fait la vie d'un pays qu'on assassine. Alors où le risque, c'est le risque d'une perte irrémédiable, d'une espèce d'amputation d'une partie de l'humanité, puisque les Palestiniens et la Palestine, c'est une partie de l'humanité. Et là, c'est en train de disparaître sous nos yeux.
Alors, faut savoir que les Palestiniens ont une forme de résistance qu'ils appellent le souboud. Hein, c'est à la fois résister, rester, et en même temps, c'est la joie de vivre. Et c'est vrai que c'est un peuple assez extraordinaire de ce point de vue. Et c'est scandaleux d'essayer d'éradiquer n'importe quel peuple, mais encore plus quand vous voyez ce peuple joyeux et aussi dynamique et aussi avec une culture aussi riche.
Ouais, qui subit la violence et la colonisation depuis plus de 75 ans.
Oui, parce que ça n'a pas commencé le 7 octobre.
Ah, ouais,
hein,
ouais.
Ça fait 75 ans qu'ils vivent ça. Voilà. Et entre nous soit dit, en 48, quand l'État d'Israël a été créé, il était prévu par les accords internationaux qu'à côté de l'État d'Israël, il y a un État palestinien. Celui-là, il n'a jamais vu le jour.
Alors, il y a eu des accords internationaux, il y a eu des décisions de l'ONU également,
voilà.
et qui n'ont jamais été respectées. Alors, la dernière décision de l'ONU en date, c'est celle qui a été rendue, je crois, le 25 mars dernier, qui demande un cessez-le-feu.
Enfin.
Enfin, mais le problème, c'est que...
Les Américains sont abstenus.
Se sont abstenus, et c'est d'application obligatoire, normalement, pour les États, mais ils doivent l'appliquer volontairement, et s'ils ne l'appliquent pas volontairement, si on veut l'imposer, il faudrait une nouvelle résolution de l'ONU. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire en attendant. Hein. Ça veut dire, par exemple, que chaque État, notamment la France, pourrait décider, alors Alain a évoqué d'arrêter de vendre des armes. C'est vraiment la première mesure qu'il faudrait prendre. Et puis il y a d'autres mesures qui peuvent être prises.
La France tape sur la table vis-à-vis d'Israël, comme d'autres pays.
En prenant des sanctions, voilà. comme l'Union Européenne, par exemple, ou d'autres pays l'ont fait contre la Russie. Et ce serait d'autant plus efficace contre Israël, parce que contrairement à la Russie, qui est pleine de richesses... En minerais, en matières premières, etc. Israël, c'est un tout petit pays qui est complètement encastré dans le commerce international. Et donc, des sanctions contre un pays comme ça, qui est vraiment mondialisé en réalité, hein, qui dépend et qui est lié au commerce international, ça aurait beaucoup plus d'effet, ce serait beaucoup plus efficace que contre un pays comme la Russie. Donc vraiment, il faut prendre des sanctions et ce serait efficace pour le coup, des sanctions contre l'État israélien. Et ça permettrait de faire pression sur l'État israélien. Et il y a une autre chose qui différencie Israël de la Russie, c'est qu'il y a une opinion publique en Israël, puisque même si c'est une démocratie imparfaite, puisqu'il n'y a pas de démocratie quand il y a une colonisation, puisque la démocratie c'est un homme, une voix, ça veut dire que chacun, tous ceux qui sont sous la juridiction d'un État devrait pouvoir participer aux décisions publiques, ce qui n'est pas le cas d'un État colonial. Mais même si cette démocratie est imparfaite, il reste une opinion publique qui peut faire pression sur le gouvernement, ce qui là aussi n'est pas tout à fait le cas en Russie. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile en Russie. Donc des sanctions, ce serait efficace.
Et puis les citoyens peuvent aussi boycotter les produits israéliens. Donc moi, j'attire l'attention de tout le monde. Carrefour participe, aide l'armée, pas par des armes, mais en fournissant des rations aux soldats israéliens. Donc on peut boycotter Carrefour, on peut boycotter les produits israéliens dans les supermarchés, sur les marchés, etc. Au marché de Vendeuve, au marché du Haut, du Lièvre, il y a des produits israéliens, entre autres des agrumes et autres.
Donc, pour vérifier la provenance, regardez bien
avant d'acheter. Vous pouvez jouer un rôle.
En tout cas, on peut pas dire qu'on ne peut rien faire parce qu'il n'y aurait pas la résolution de l'ONU qui autorise l'usage de la force. Il y a des choses à faire. Et qui serait efficace.
Il y a aussi, Christophe, il y a aussi des États qui commencent à reconnaître l'État de Palestine. Oui. Et ça, c'est aussi un acte politique.
Il y a aussi des actions devant la Cour internationale de justice, notamment de l'Afrique du Sud. Et là, l'État français qui continuerait à vendre des armes à Israël alors qu'il y a un risque plausible de génocide, il pourrait se rendre coupable de complicité, par exemple.
Complètement.
Donc, En tout cas, là, on a atteint la durée de notre émission. On est à la fin, et donc venez toutes et tous au printemps de la Palestine, édition de 2024. Réécoutez l'émission, faites-la connaître. On a eu en technique aujourd'hui, Pierre nous a généreusement assisté, et puis retrouvez Paroles de Paix sur le podcast rcn-radio.org dans la partie magazine de société, et puis également sur Facebook, YouTube. Voilà, au revoir à toutes, au revoir à tous, et à bientôt.
Au revoir.
Salut, au revoir. Salut.